France Culture et les 16h, tout de suite, Science Publique, Michel Alberganti.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Science Publique. Comme toujours, vos réactions sont attendues sur notre site au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Notre alimentation a-t-elle perdu ses qualités nutritives ? Certains d'entre vous se souviennent sans doute du slogan de campagne de Jacques Chirac en 1995 « Manger des pommes ». Aujourd'hui, le Plan National Nutrition Santé, le PNNS, lancé en 2001, prône de manger 5 fruits et légumes par jour et de favoriser l'activité physique. Il s'agit d'améliorer l'équilibre entre l'apport en nutriments de l'alimentation et les dépenses de l'organisme. Un message frappé au coin du bon sens au moment où l'on commence à mieux comprendre le fonctionnement du système digestif grâce à l'exploration du microbiote, cette population de milliards de bactéries qui peuplent notre intestin et influencent notre santé. Nous vous en avons déjà parlé en détail dans Science Publique. Pour que ces exhortations à une meilleure alimentation donnent les résultats escomptés, il est indispensable que les aliments jouent le rôle que l'on attend d'eux, c'est-à-dire qu'ils apportent les nutriments nécessaires à notre organisme, qu'il s'agisse des protéines, des vitamines ou des sels minéraux, tels que le calcium, le magnésium, le fer ou le zinc. Or, il semble que les aliments commercialisés aujourd'hui ne visent pas cet objectif nutritionnel. Les industriels favorisent plus la recherche de rendements élevés pour les cultures et l'esthétique des produits que leur capacité à nous apporter les nutriments nécessaires. Ainsi, l'étude publiée en 2007 par Brian Halwell, chercheur à l'Institut World Watch, révèle le développement de la calorie vide, c'est-à-dire pauvre en vitamines, protéines, minéraux et oligo-éléments. Ainsi, comme le notait la journaliste Amélie Mouget dans un article publié en janvier 2015 sur le site Terra Eco, il faut 100 pommes d'aujourd'hui pour apporter à l'organisme ce qu'une seule pomme des années 1950 contenait. Un documentaire de Maël Joulin diffusé sur France 5 le 3 avril 2016 sous le titre « Manger plus pour se nourrir moins » va dans le même sens. La qualité de ce que nous mangeons aurait été sacrifiée sur l'autel de la quantité et de la rentabilité. Faut-il s'inquiéter de ces carences masquées dans notre alimentation ? Les produits bio sont-ils en mesure de les pallier ? Comment manger moins pour se nourrir mieux ? Ce sont les questions dont nous allons débattre aujourd'hui avec nos invités dans Science Publique. Pour cela, nous recevons en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio, Serge Herkberg, professeur de nutrition à la faculté de médecine de Paris 13, directeur d'une équipe de recherche à l'INSERM sur l'épidémiologie de la nutrition et directeur du programme national nutrition santé, le PNNS, lancé en 2001. En 2011. Et Christian Remézy est nutritionniste et ex-directeur de recherche à l'INRA. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous adresser vos réactions à cette émission tout en bas de la page de l'émission sur franceculture.fr. Serge Herkberg, bonjour.
Bonjour.
Donc vous dirigez ce plan national nutrition santé et depuis 2001, c'est bien ça ?
Depuis 2001, oui, c'est sa troisième phase.
Sa troisième phase, donc par tranche de 5 ans, hein, il se reproduit. Il a été prolongé d'ailleurs en 2016, vous me disiez, juste avant le début de l'émission. Alors que pensez-vous de cette question de la qualité nutritive réelle des fameux 5 fruits et légumes qui sont prônés par ce plan ?
Alors d'abord, il faut savoir que l'équilibre nutritionnel, ça n'est pas que les fruits et légumes, c'est une composante, mais il faut également pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, il faut manger des aliments complets, etc. On s'intéresse toujours sur le plan de la politique nutritionnelle de santé publique, d'un côté à la qualité nutritionnelle des aliments et donc leur appauvrissement, ou au contraire la présence en excès de substances qui ne sont pas les plus favorables nous intéresse. Et puis ensuite, il y a tout ce qui concerne les comportements des individus. Donc il faut leur fournir des éléments d'information, donc manger au moins 5 fruits et légumes en fait partie. Ensuite, il faut s'assurer que l'offre réponde à la fois en termes de qualité nutritionnelle, mais également d'accessibilité, notamment économique, à l'intérêt des consommateurs. Donc ce que l'on peut dire, c'est qu'en effet, on peut être préoccupé sur l'évolution de la qualité nutritionnelle de nos aliments, et notamment des fruits et légumes. On peut soulever ces problèmes d'appauvrissement aujourd'hui liés à la culture intensive, à la pauvreté des sols, au rendement fort, à la prise en compte de la précocité des fruits et légumes. Mais il ne faut pas non plus trop s'affoler dans ce sens que même s'il faut être attentif à cela, les travaux qui suggèrent que la consommation de fruits et légumes réduit le risque de maladie portent sur les aliments actuels. Donc il faut être vigilant améliorer les pratiques culturales, mais d'un autre côté, rassurer les consommateurs qu'il faut manger des fruits et légumes, même s'ils sont moins favorables aujourd'hui qu'autrefois, même si les chiffres que vous avez cités peuvent paraître un petit peu caricaturaux.
On va en reparler, bien entendu. Christian Remézy, bonjour, vous êtes en duplex avec nous depuis France Bleu Toulouse, vous nous entendez ?
Oui, bonjour.
Bonjour. Donc, vous venez de publier une tribune dans le journal Le Monde, datée du 28 avril, qui est intitulée « Pour une nouvelle transition alimentaire ». Nous allons bien entendu en parler, mais auparavant, que pensez-vous de cette perte de qualité nutritive ? Je vous parlais juste avant l'émission de ce constat que 100 pommes d'aujourd'hui seraient nécessaires pour apporter ce qu'une seule pomme des années 1950 contenait, et vous n'êtes pas d'accord ?
Oui. Concernant les pommes, c'est tout à fait exagéré, mais ça c'est assez anecdotique, on ne va pas se focaliser sur la pomme.
Ben, certes, mais vous avez, la pomme a eu une valeur un peu emblématique.
Symbolique. Je crois qu'on peut dire que la vitamine C a certainement chuté de moitié, mais pas de 100 fois, voilà, c'est pas...
Alors globalement, en dehors de... Bon, après on peut évidemment discuter sur les degrés, mais globalement, est-ce que vous... constatez vous-même aussi, de votre point de vue, un déficit dans les qualités nutritionnelles de notre alimentation aujourd'hui ?
Oui, je voudrais dire deux choses. D'abord que ça ne datait pas d'aujourd'hui. Et c'est peut-être que la prise de conscience est par contre actuelle. Mais l'ère des calories vides a démarré bien longtemps, depuis bien longtemps. Et d'autre part, la faible diversification des fruits et légumes. Par exemple, je me souviens d'une époque où on ne trouvait que des golden sur le marché. Donc, ça fait longtemps que ce problème du productivisme agricole et de la dégradation de l'offre, ça date de longtemps, voilà.
Juste pour préciser, peut-être ce que vous entendez par calories vides, c'est un concept qui est également dans l'étude que j'ai citée, là,
oui. Oui, vous avez utilisé ce terme calories vides à propos des fruits et légumes. Bon, c'est pas réellement satisfaisant. Donc, les calories vides au sens strict du terme, ce sont les sucres, les matières grasses, l'amidon, enfin tous les produits, tous les ingrédients ajoutés qui sont absolument vides de tout micronutriment. Alors, on peut pas dire que une courgette ou une tomate, même issue de l'agriculture intensive, est dépourvue de micronutriments, c'est complètement faux. Donc on va dire que ce sont des aliments qui n'ont pas la densité nutritionnelle escomptée, voilà.
Alors peut-être un commentaire sur cette question de la calorie vide, Serge Hergberg, pour vous ça existe et c'est dans quelle mesure ça fait partie du problème que nous abordons aujourd'hui ?
Oui, c'est un élément devenu essentiel aujourd'hui. On a une alimentation qui est très riche en calories, donc qui apporte dans un petit volume beaucoup de calories sans apporter de nutriments intéressants, vitamines, minéraux, fibres, etc. Il faut simplement savoir, quand on boit un litre de soda, c'est l'équivalent de 20 morceaux de sucre et ça n'apporte donc aucune vitamine et minéraux qui l'accompagnent. Donc ça vient prendre la place d'aliments qui, eux, traditionnellement fournissait des calories accompagnées de vitamines et de minéraux. C'est vrai que c'est devenu un élément au cœur de nos préoccupations. Si aujourd'hui la nutrition a des effets délétères sur la santé, c'est en grande partie dû à ces problèmes de calories vides consommées, cette faible densité nutritionnelle, cette faible concentration en vitamines, minéraux et substances nutritionnellement actives.
Alors pourtant, la calorie est une unité de mesure un petit peu de ce que l'on absorbe et pas mal de régimes font référence à cette mesure pour savoir si l'équilibre est bon pour le corps. Est-ce que la calorie finalement n'est pas la bonne méthode, la bonne mesure ?
C'est une partie de l'équation, mais il faut qu'il y ait à la fois des calories, un apport énergétique, mais il faut que cet apport énergétique soit accompagné d'un apport en substances qui sont nutritionnellement intéressantes et avec des calories qui ne proviennent pas d'un excès de consommation de gras et de sucre qui vont en effet favoriser d'un côté les calories vides plus les effets néfastes, les effets délétères liés à cette consommation excessive de gras et de sucre.
Alors Christian Remézy, est-ce que vous confirmez qu'il y a un problème, ce problème de carence de ces éléments et que aujourd'hui on peut absorber beaucoup de calories sans pour autant se nourrir vraiment ?
C'est tout à fait exact. Et surtout si on consomme beaucoup de produits transformés industriels. Parce que justement, pour l'industrie, c'est beaucoup plus facile de faire du cracking alimentaire, d'utiliser des ingrédients purifiés plutôt que de faire des aliments à partir de produits naturels complexes. Donc... Du coup, il y a vraiment une dégradation très forte de la densité nutritionnelle. Alors, je voudrais rebondir sur cette histoire. Tout le monde connaît le concept de calories. Et malheureusement, on n'a pas suffisamment vulgarisé le concept de densité nutritionnelle. Alors, la densité nutritionnelle, c'est les apports d'un élément intéressant, par exemple de calcium, de magnésium, de vitamine C, ramenés aux apports caloriques. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre que les fruits et légumes, par exemple, ont une plus grande de densité nutritionnelle qu'un biscuit ou qu'un soda. Donc c'est très important, ce serait très important de vulgariser ce concept de densité nutritionnelle. Et finalement, cette émission, c'est sur la densité nutritionnelle dont il faudrait parler.
Alors justement, peut-être qu'il faut la définir, cette densité. Est-ce que ça se traduit par un chiffre, par une échelle, une unité ?
Oui, on peut le ramener par exemple à 100 kilocalories. Oui, c'est tout à fait possible. C'est la quantité d'un micronutriment, d'un nutriment essentiel ramené à un apport calorique identique.
Et c'est indiqué quelque part, le consommateur peut trouver cette information ?
Des fois, oui. Sur certains étiquetages, on peut effectivement. Si on compare donc les apports aux calories du produit, on peut effectivement avoir une idée de la densité nutritionnelle.
Jacques Berg, est-ce que ça fait partie des discussions qui ont lieu au sein du PNNS en matière peut-être d'ailleurs d'étiquetage, de label ?
Oui, bien sûr. Je crois qu'on est vraiment au cœur, en effet, comme l'a rappelé Christian Rémézy, de la problématique aujourd'hui du PNNS, c'est-à-dire une alimentation qui est en miroir d'un côté avec un excès de calories, pas suffisamment de vitamines et minéraux, et d'un autre côté, un excès de gras et de sel et de sucre qui contribue à un déséquilibre nutritionnel. Et donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'informer le consommateur par rapport aux aliments transformés, car Christian Rémézy insistait dessus, c'est vrai que les fruits et légumes ont peut-être moins aujourd'hui de vitamines et de minéraux, mais ça reste un aliment extrêmement intéressant qu'il faut promouvoir, et il faut par contre limiter la consommation excessive d'aliments transformés riche en gras, sucre et sel, ce qu'on a du mal à comprendre quand on regarde sur une étiquette aujourd'hui, sur un emballage des aliments, et que l'on voudrait traduire sous une forme qui soit synthétique, intuitive et compréhensible par tous, grâce à un logo nutritionnel qui pourrait au moins informer sur la qualité nutritionnelle globale des aliments et permettre les comparaisons entre les aliments, entre eux. Pas tellement les chips par rapport aux brocolis, tout le monde sait que les brocolis c'est sûrement mieux que les chips, mais à l'intérieur d'un groupe, d'une catégorie d'aliments ou pour un même aliment entre différentes marques, il y a des différences qui peuvent être considérables et ça le consommateur a le droit de le savoir pour pouvoir ensuite choisir l'aliment qui lui semble le plus intéressant sur le plan nutritionnel.
Donc si je résume, une densité nutritionnelle qui a baissé dans les fruits et légumes, et on va dans la deuxième partie de l'émission essayer de s'interroger sur les causes de cette baisse, et d'un autre côté une industrie alimentaire qui elle prépare des plats avec au contraire de plutôt mauvaises calories ou pas les bonnes composantes.
Alors c'est en effet, une offre alimentaire aujourd'hui qui est moins favorable sur le plan nutritionnel, mais c'est également une promotion de cette offre alimentaire au travers du marketing et de la publicité qui pousse les populations, et notamment celles qui ont peut-être les plus de difficultés. C'est aussi le problème de l'accessibilité économique qui limite l'accessibilité à des aliments de bonne qualité nutritionnelle et qui donc va aller vers des aliments qui sont moins favorables sur le plan de la santé, plus gras, plus sucrés, plus salés et plus pauvres en vitamines et minéraux.
Alors en France, les études concernant en particulier les fruits et légumes sont menées par l'INRA pour souvent créer de nouvelles variétés, faire évoluer les cultures. Donc Christian Rémézy, est-ce que cette préoccupation de densité nutritionnelle dont vous nous avez parlé, est-ce qu'elle est prise en compte dans les travaux de l'INRA pour par exemple développer de nouvelles variétés qui seraient plus denses dans ce domaine ?
Non, justement, nous avons un problème majeur, c'est que la qualité nutritionnelle n'est pas prise en compte dans l'inscription des variétés. D'ailleurs, il n'y a pas de suivi nutritionnel des produits végétaux. Je n'ai jamais vu dans un supermarché une analyse type d'une courgette, d'une tomate, ainsi de suite. On a complètement négligé le suivi dans la qualité nutritionnelle des fruits et légumes en particulier et d'autres produits également. Tout ça parce qu'en France, il n'existe pas un corps de nutritionniste. Il existe des corps de toutes sortes de corps, de médecins, pharmaciens, agronomes. Mais la nutrition, les suivis sur le plan, je vais dire, de l'hygiène par les services vétérinaires, mais sur le plan de la qualité nutritionnelle, elle est suivie par personne. Et sur le, ce qui explique d'ailleurs que les industriels peuvent mettre sur le marché le plus nul des aliments et des boissons sans aucune contrainte. Il n'y a jamais eu d'obligation de densité nutritionnelle. On est plus regardant sur le, l'essence que l'on met dans les véhicules que sur la qualité réellement des aliments destinés à être consommés par les humains.
Serge Arguin.
Et à l'INRA, on a beaucoup, on a beaucoup plus étudié à l'INRA la qualité des produits végétaux à visée animale que la qualité des produits végétaux à visée humaine. C'est incroyable.
Serge Arguin.
Oui, en effet, c'est un vrai problème. Et ce manque de transparence sur la qualité une seule des aliments, ce manque d'intérêt jusqu'à présent, fait aujourd'hui l'objet de toutes les discussions qu'il peut y avoir. Alors, l'idée d'avoir un profil nutritionnel, de pouvoir caractériser la qualité nutritionnelle des aliments au travers d'un profil nutritionnel, c'est quelque chose auquel les industriels ne souhaitent pas trop adhérer et donc émettent beaucoup de réserves, mais c'est un élément alors qui sera peut-être pas parfait, hein, le fait de synthétiser les calories, la densité calorique, les sucres gras, le sel, la densité nutritionnelle au travers d'indicateurs indirects, sous forme d'un chiffre synthétique qui permettra ensuite de donner des pastilles de couleur, du vert au rouge par exemple, c'est un premier pas pour essayer de montrer qu'il y a des différences de qualité nutritionnelle qui ne sont pas perçues par le consommateur et donc qui permettront à la fois de discriminer entre les produits entre eux, voire évoluer lorsque les industriels feront des efforts, la lisibilité donc qui sera donnée à cette qualité nutritionnelle que le consommateur pourra facilement prendre en considération, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des étiquettes sur la face arrière des emballages d'aliments, mais c'est extrêmement compliqué, c'est écrit en tout petit, c'est souvent donc difficilement lisible, c'est difficilement compréhensible, car ce sont des termes très
durs,
absolument
importants.
Donc il faut que l'on puisse traduire ça de manière à ce que le consommateur puisse intégrer dans son acte d'achat ces informations sur la qualité nutritionnelle des produits.
Alors si je résume bien, donc en gros, tout ce qui s'est développé depuis peut-être justement la révolution, la transition alimentaire dont on parlera tout à l'heure Christian Rémézy, puisque lui, il prône une nouvelle transition, mais dans la transition précédente, donc en gros, on a développé beaucoup l'industrie alimentaire, beaucoup aussi l'agriculture, et on s'est donc préoccupé d'alimentation de la population en oubliant la nutrition. Ce qui est quand même, c'est comme si, je sais pas, les constructeurs automobiles dont parlait Christian Rémézy à l'instant, avaient fait l'impasse sur la sécurité routière. Enfin, c'est quelque chose qui paraît quand même incompréhensible et assez incroyable, Christian Rémézy.
C'est exact, ça ne concerne pas que les fruits et légumes. Prenons les produits céréaliers. En 50 ans, le rendement est passé de 30 à 40 quintaux à 70-80 quintaux. Et on a sélectionné les blés entièrement...
Ça, c'est quintaux à l'hectare, hein, c'est ce que vous...
Oui, quintaux à l'hectare, oui. On a sélectionné les blés sur, par exemple, les propriétés technologiques, sur leur force boulangère. Si bien qu'on est arrivé à disposer de gluten avec des propriétés viscoélastiques extrêmement fortes. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a créé finalement une nouvelle phobie, la phobie du gluten, parce qu'une partie de la population s'est retrouvée, avoir une hypersensibilité au gluten. Donc si on ne fait pas l'effort d'accompagner la valeur nutritionnelle d'un produit, il y a des dérives et ensuite ça peut avoir des conséquences sociétales majeures. L'autre exemple concerne les produits laitiers. C'est comme, de même que pour les produits céréaliers, on a doublé la production laitière des vaches, qui est passée de 4 à 5 000 litres par an à 8 à 10 000 litres. Donc on a industrialisé l'alimentation des vaches, on a augmenté la taille des troupeaux. Ça veut dire que l'alimentation est devenue de plus en plus industrialisée, avec du maïs en silage, du tourteau de soja, beaucoup moins de pâturage. Et effectivement, dans ces conditions, le lait actuel ne peut pas être comparé au lait d'une vache au pâturage qui produisait péniblement 4 millilitres de lait par an. Ensuite, on a standardisé les matières premières laitières, donc on comprend bien qu'on ne peut pas donner la même valeur à cet aliment très noble qu'est le lait dans ces conditions d'industrialisation. Voilà. Et on a tendance à montrer du doigt les fruits et légumes, ça pose des problèmes, mais il y a bien d'autres produits qui sont concernés par ce productivisme excessif.
France Culture, Science Publique. Michel Albergonti.
Notre alimentation a-t-elle perdu ses qualités nutritives? C'est le sujet de notre débat aujourd'hui avec nos invités. Serge Herberg, qui est directeur de recherche d'une équipe à l'INSERM sur l'épidémiologie de la nutrition, et également directeur du programme national Nutrition Santé, et Christian Rémézy, nutritionniste et ex-directeur de recherche à l'INRA. Alors, on a fait cette première partie sur un petit peu l'état des lieux. On n'est pas déçu de l'avoir faite, puisqu'on découvre quand même une situation assez inquiétante, pour le moins, sur cette perte de qualité nutritive des aliments. Serge Herberg, est-ce que vous, pour vous, les causes sont claires? Est-ce que on peut dire aujourd'hui, alors Christian Rémézy a commencé à nous parler un petit peu des pratiques effectivement d'augmentation du rendement explosive au cours des dernières années, mais est-ce que c'est la principale cause? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce qui s'est passé?
Alors, d'abord, il faudra quand même aussi donner une vision aussi positive, car il y a eu des évolutions favorables.
C'est mal parti.
Il n'y a plus aujourd'hui des grandes carences sévères telles qu'on les connaissait encore il y a quelques décennies. Par contre, en effet, l'évolution est inquiétante. Alors, pour des raisons d'agriculture telles que ceci a été rappelé, mais également par l'industrialisation de notre alimentation avec une offre alimentaire qui a considérablement été accrue. Il suffit d'aller aujourd'hui dans un supermarché pour voir comment s'accumulent des produits nouveaux, transformés, donc industrialisés, qui visent à inciter à une consommation excessive d'aliments qui ne sont pas les plus intéressants sur le plan de leur qualité nutritionnelle. C'est ce qu'on revient toujours à cette faible densité nutritionnelle, forte densité énergétique, avec un marketing qui pousse à une consommation excessive de ces aliments. Donc, c'est à la fois les pratiques culturelles, bien sûr, mais c'est également les pratiques industrielles, de l'industrie agroalimentaire, qui, même s'il y a eu des progrès, s'est également accompagné d'excès avec une offre alimentaire qui, en plus, nous est offerte toute la journée, partout. Autrefois, votre boulanger ouvrait à certains horaires.
Il ne faisait pas de pub à la télévision.
Il n'y avait pas de pub à la télévision. Il n'y avait pas des distributeurs automatiques ouverts et présents sur votre lieu de travail, voire dans différentes enceintes publiques. Donc, il n'y avait pas une incitation à manger des aliments transformés qui, sur le plan nutritionnel, sont pas ceux pour lesquels on souhaite qu'il y ait une promotion sur le plan de leur intérêt nutritionnel.
Alors effectivement, il suffit d'entrer dans un supermarché ou dans un hypermarché pour voir que la part réservée à ces aliments dont vous parlez, transformés par l'industrie agroalimentaire, est nettement supérieure à celle des produits naturels, même si eux aussi sont problématiques, comme on l'a dit. Mais il se trouve qu'ils ont quand même une part de l'espace d'offre commerciale beaucoup plus réduit. Est-ce que ces produits transformés, Christian Rémézy, pour vous, font partie intégrante vraiment du problème? Est-ce qu'ils n'ont aucune qualité?
C'est vraiment un problème d'exposer les consommateurs à un tel foisonnement de produits transformés. Grosso modo, tout ceci vient d'une carence des pouvoirs publics qui autorise à mettre sur le marché beaucoup trop d'aliments sans aucun intérêt nutritionnel. Alors ça a des conséquences. Bien sûr que un consommateur éclairé qui rentre dans un supermarché peut très bien faire de bonnes courses et finalement bien se nourrir. Mais si la personne n'est pas réellement, au fait de ce qu'il faudrait qu'elle achète, elle évidemment elle se fait piéger et on trouve des caddies qui sont absolument déséquilibrés. Et d'ailleurs, si on étudie le flux des aliments, des boissons qui transitent dans le supermarché, à la fin, on a une composition, nutritionnelle très déséquilibrée par rapport aux besoins humains. Donc on voit bien que, d'une certaine façon, le supermarché organise en quelque sorte la malnutrition de la population, au moins pour la partie des consommateurs qui ne sait pas, résister à l'offre des produits sans intérêt.
Alors, je vous en prie.
Donc, c'est réellement quelque chose qu'il faudrait rectifier. Et il faudrait, par exemple, qu'il y ait dans une aide, un peu, dans un supermarché, qu'il y ait une pyramide alimentaire, c'est-à-dire une information sur les aliments, la hiérarchie des aliments à consommer, une information sur les produits de saison, une information sur comment disposer de matières grasses équilibrées, donc une incitation à consommer des huiles vierges plutôt que des huiles raffinées, enfin à consommer du pain bi plutôt que du pain blanc. Donc on devrait, j'allais dire, le supermarché devrait orienter les achats des consommateurs pour que à la fin les personnes soient mieux nourries. Et cette j'allais dire cette bonne volonté, cette possibilité d'aider la population n'est pas du tout mise en place. Voilà. Ça n'existe pas.
Oui, ce n'est pas très étonnant dans la mesure où déjà, à l'INRA, c'est pas un critère qui a depuis longtemps été pris en compte dans vos recherches. Donc oui.
Je ne pense pas que ce soit que l'INRA qui soit responsable de cette affaire.
Non, bien sûr. Non, mais c'est-à-dire que même, je voulais dire même l'INRA. Donc, Serge Jacquemberg, est-ce que les pouvoirs publics qui sont mis en cause par Christian Remezy ont effectivement, de votre point de vue, un rôle à jouer?
Alors oui, ils ont bien sûr un rôle à jouer. Une politique industrielle de santé publique doit être développée de façon proactive sous l'égide du ministère de la Santé. Donc c'est évidemment ce dont on pousse. Moi, je ne défends pas les pouvoirs publics, je suis un technicien. Je participe au programme national nutrition santé, mais
qui est lancé par le ministère.
Par le ministère de la Santé, mais c'est un programme interministériel, donc dans lequel les ministères de l'agriculture, de l'enseignement, de l'écologie sont également partie prenante. Et ce télescope, également les conflits qu'il peut y avoir en termes de vision des différents types d'intérêts. Une chose est sûre, c'est que bien sûr il faut de l'information, de l'éducation, de la communication, mais on sait que c'est pas suffisant. Aujourd'hui, dans toutes nos études, on voit que 95% de la population connaît les recommandations de santé publique. C'est qu'il faut manger au moins 5 fruits et légumes, c'est qu'il faut manger pas trop gras, trop sucré, trop salé. Le problème, c'est l'accessibilité de l'offre. Si ils sont chers, ces produits qui sont de bonne qualité nutritionnelle, si ceux qui sont de qualité nutritionnelle défavorable sont au contraire très accessibles, si là, le marketing intensif, la publicité pousse à consommer des aliments qui sont de faible qualité nutritionnelle, on aura du mal malgré l'information que l'on pourra donner. Et on sait qu'en plus, cette information elle concerne moins les populations les plus défavorisées qui sont à plus haut risque. Aujourd'hui, le grand problème auquel on se heurte, c'est les inégalités sociales de santé dans le domaine de la nutrition. Un enfant né de population défavorisée a un risque d'obésité 2 fois plus important qu'un enfant de cadre. Aujourd'hui, un ouvrier mange 50% moins de fruits et légumes qu'un haut revenu. Donc, il faut pas seulement faire de l'information et de la commission, il faut que l'offre alimentaire soit plus favorable à la santé, plus accessible. Donc il faut des mesures réglementaires, des mesures complexes, il faut une volonté politique pour améliorer ces choses.
Christian Remezy, comment expliquer, comment essayer de comprendre pourquoi, pour quelles raisons l'industrie agroalimentaire s'est engagée dans cette espèce de course aux produits, aux nouveaux produits, à de nouvelles transformations, et tout cela dans un contexte d'abandon des qualités nutritionnelles ou ne plus avoir pour objectif de les garantir ou de les améliorer. Alors qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui est à l'œuvre derrière cette évolution de l'offre de l'industrie agroalimentaire, de votre point de vue?
Donc moi je vois deux raisons. La première, je l'ai invoquée, c'est le manque d'encadrement de la part des pouvoirs publics, parce que bon, je comprends pas pourquoi on laisse sur le marché des produits qui n'ont pas d'intérêt, donc il faudrait les taxer. On sait très bien que lorsqu'on a voulu taxer les sodas, tout le monde s'est opposé, enfin bon, ça n'a pas marché. Donc visiblement, il y a un laxisme des pouvoirs publics. Et d'autre part ensuite, il y a un marketing qui est vraiment terrible, à savoir que on vend des produits qui n'ont pas de valeur, mais en faisant du nutrionisme, c'est-à-dire en utilisant la teneur d'un nutriment donné. Par exemple, ce produit va contenir des oméga 3, des prébiotiques, des probiotiques, du magnésium, des fibres, tout ce que vous voudrez. Et avec ce type de marketing, on arrive à vendre des produits sans intérêt. Et on oublie que l'alimentation, c'est une approche globale, qu'on a besoin d'un aliment complexe, qu'en plus, on doit savoir d'où vient cet aliment, s'il est bon pour l'homme, s'il est bon pour la planète. Donc, on nous amuse avec du marketing. Et ce marketing, effectivement, fait des ravages au niveau des consommateurs. Donc, c'est tout ceci qu'il faut corriger. c'est arrêter ce nutrionisme et arrêter aussi de faire des aliments qui n'ont absolument aucun intérêt et dont on sait que leur consommation à la longue, surtout la multiplication de ce type d'aliments à la longue, va effectivement provoquer des déséquilibres nutritionnels et de la pathologie au niveau de la population.
Serge Berg, le nutrionisme, j'ignorais ce concept. Est-ce que vous confirmez qu'en plus de ne pas apporter ce qu'on pourrait attendre des produits qu'elle met sur le marché, l'industrie agroalimentaire joue aussi avec ces mots comme magnésium, oméga 3 et autres pour donner la sensation au consommateur qu'il achète quelque chose qui va lui faire du bien?
Oui, tout à fait. Il suffit d'ailleurs de regarder soit les publicités, soit d'aller dans un supermarché pour voir le nombre de produits qui se disent enrichis, appauvris, sans qu'il n'ait de valeur nutritionnelle intrinsèque suffisante.
Ça, c'est quand même tromper complètement le consommateur. Comment est-ce possible qu'effectivement, là je rejoins peut-être les interrogations de Christian Remézy, que les pouvoirs publics restent impuissants face à cette déferlante de produits qui n'ont pas de valeur nutritive?
Parce que nous sommes dans une réglementation européenne qui autorise les allégations nutritionnelles. C'est-à-dire qu'on peut dire on a rajouté des fibres, du magnésium, du calcium. En France et en Europe, on ne peut pas dire que ceci a un effet bénéfique pour la santé. Donc, il y a une forte ambiguïté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces systèmes qui brident un petit peu l'action de santé publique permet que certains types de produits puissent alléguer d'un intérêt nutritionnel. Alors, sans que ceci soit parfaitement démontré. Alors, il y a quand même un certain encadrement, mais en effet, il n'est pas suffisant. Maintenant, d'un autre côté, j'aurais juste corrigé mon collègue, il y a une taxation sur le sucre en France depuis 2012, et elle est efficace, puisque d'une part, elle s'est répercutée sur le prix des sodas, et d'un autre côté, on a des données statistiques qui montrent que la consommation de soda a chuté de 4%, alors que c'était un marché en croissance qui a augmenté de 2%. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui démontrent de leur efficacité. Une taxe sur les sodas n'est pas suffisante, il faut une taxe sur la qualité nutritionnelle globale des aliments. Là, il faut une volonté politique forte, et ça, c'est aux politiques d'y faire face. C'est proposé par les nutritionnistes de santé publique. Il faut réguler le marketing alimentaire en régulant la publicité, notamment télévisuelle destinée aux enfants pour des produits de faible qualité nutritionnelle. Il faut subventionner des aliments. Oui, il y a tout un tas de mesures qui doivent être mises en place. Nous, nutritionnistes de santé publique, nous les proposons au pouvoir public et nous attendons de ces pouvoirs publics qu'ils soient mis en place. Le logo fait partie de la loi aujourd'hui. Maintenant, on ne sait pas sous quelle forme il sera, car les lobbies actuellement essayent d'empêcher ce système qui permettra de fournir déjà un élément de transparence et qui permettra surtout de pousser les industriels à améliorer leurs produits. Car si leur concurrent est mieux placé dans l'échelle de couleurs, on peut espérer qu'ils vont améliorer leurs produits en termes de gras, de sucre, de sel, de manière à pouvoir être concurrentiel avec la compétition face à leurs concurrents.
Christian Remézy, comment expliquer ce divorce finalement entre la stratégie des industriels et l'intérêt du consommateur, alors que, en toute logique, c'est une image évidemment opposée qu'il présente? Et est-ce que ce sont pour des raisons purement économiques, de rentabilité, de profit que cette évolution s'est produite, ou est-ce qu'il y a d'autres moteurs de votre point de vue?
Je pense que c'est essentiellement pour des raisons de profit, bien sûr. Et en même temps, il n'y a pas eu suffisamment de garde-fous. Par exemple, pour le sel dans le pain, il y a eu une recommandation du PNNS d'abaisser. C'est très, très important d'abaisser les teneurs de sel dans le pain. Alors, on leur a dit il faudrait qu'il n'y ait pas plus de 18 grammes de sel par kilo de farine. Et les boulangers, ils se sont regardés les uns les autres, ils ont baissé un petit peu, mais puisque c'est pas réglementé, on continue, à mettre 20 grammes, 21 grammes de sel par kilo de farine. Alors que les pouvoirs publics auraient pu tout pondre un décret, mais d'une simplicité enfantine, en disant, voilà, les teneurs de sel dans le pain ne seront pas supérieurs à 18 grammes par kilo de farine. Donc on voit bien que les pouvoirs publics ne veulent surtout pas contrarier l'industrie agroalimentaire, qui est un lobby très puissant, absolument très puissant. Bon, moi je me suis heurté par ailleurs à cette industrie pour la vulgarisation sur l'augmentation du type de farine. Vous savez, le type de farine, c'est très avantageux parce qu'avec une simple teneur de mesure de cendre, on a à la fois la valeur, la densité nutritionnelle en d'autres éléments, en fibres, en minéraux, en micronutriments. Donc c'était très intéressant de dire, voilà, on fait du pain type 80, c'est un bon compromis entre un pain complet et un pain blanc. Et puis, en France, le pain de tradition, par exemple, qui correspond à ce qui était consommé autrefois, c'est plutôt du pain type 80. Donc il suffisait
Type 80, ça veut dire, plus précisément, ça signifie quoi ?
Ça veut dire 0,8 grammes de minéraux par 100 grammes de farine, voilà. Donc c'est la teneur de minéraux dans la farine, mais qui est corrélée aux concentrations des autres micronutriments. Donc c'était intéressant de connaître ce type, sachant que donc on a des farines qui varient du type 45 au type 150 et plus, et donc le type 80 est un bon compromis. Donc on n'a pas eu une politique suffisamment directive pour dire, voilà, en France, le pain sera majoritairement de type 80. On incite, on fait tout pour favoriser ce pain bi qui est vraiment meilleur pour la santé. Donc je ne comprends pas pourquoi, du coup, par exemple, il y a une baisse de la consommation du pain. Pourquoi ? Parce que le pain n'est pas devenu l'aliment qu'il devrait être. Et dans ces conditions, ben, on oublie d'en acheter, ou bien il n'est pas de qualité suffisante. Bon, si un produit est dévalorisé, petit à petit, il perd des parts de marché. Donc il y a une erreur stratégique aussi de certaines filières de ne pas aller dans le sens de la qualité.
Serge Hagberg.
Oui, tout à fait. Le problème que l'on a, c'est que les scientifiques sont assez d'accord sur les actions à proposer. Ce type d'action, tel que Christian Remézy vient de donner comme exemple sur le pain, à la fois sur le sel et sur les fibres, font partie, par exemple, d'un rapport que j'ai rendu à la ministre de la Santé il y a un peu moins de 2 ans pour demander qu'un décret soit mis en place, qu'il y ait une réglementation pour fixer la teneur en sel et pour fixer la teneur en fibres. Le problème, c'est en effet qu'il faut faire passer à l'acte les politiques. Et là, nous, scientifiques, nous avons nos limites. On fournit les éléments, les bases scientifiques. Ensuite, c'est une décision politique. Donc maintenant, ce qu'il faut aussi, c'est que les consommateurs, les citoyens se mobilisent. Et on voit aujourd'hui, au travers de pétitions citoyennes, notamment pour le logo nutritionnel tant critiqué par les industriels, que des pétitions sur Internet, sur change.org, circulent, et qu'il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de consommateurs, de citoyens qui exigent que soient mises en place ces mesures de santé publique contre les lobbies qui tentent de empêcher qu'elles soient mises en place, peut peser dans la balance. Donc, on peut continuer à se regarder le nombril et faire des multiples rapports en disant « il faut faire cela ». Il faut également maintenant qu'on ait les citoyens qui s'associent à cette démarche pour exiger que soient mises en place des mesures au bénéfice d'eux et des générations futures.
Donc, en gros, ce que vous nous expliquez, c'est qu'il y a une opposition entre les lobbies industriels et, en gros, les chercheurs qui travaillent sur la santé publique et qui, donc, n'arrivent pas aux mêmes conclusions et ne sont pas en cohérence. Et donc, et vous faites appel à la population donc pour faire pencher la balance du bon côté, c'est un peu ça.
Oui, bien sûr. Regardez l'exemple précis que nous vivons aujourd'hui. La loi propose le principe d'un système d'information nutritionnelle, un logo sur la face avant des emballages des aliments. Il y a des bases scientifiques pour proposer un système à 5 couleurs, du vert au rouge, qui montre la gradation de la qualité nutritionnelle, avec des travaux qui permettent vraiment de justifier ces choix. Ça aide le consommateur, ça poussera les industriels à améliorer leurs produits. C'est aujourd'hui contrebalancé parce que les industriels freinent des cas de fer pour que ce décret ou l'arrêté qui proposera le système ne soit pas mis en place. Et donc, il faut que les citoyens se mobilisent. Et il y a aujourd'hui 57 000 signataires sur change.org pour cette pétition pour un étiquetage nutritionnel qui soit un système simple, compréhensible et intuitif. S'il y a 100 000, 200 000 personnes, à la fois les industriels et les pouvoirs publics entendront ce message, peut-être plus que ce que nous pouvons faire au travers de nos travaux scientifiques.
Christian Remézy, ce logo nutritionnel et cette campagne pour essayer de l'imposer face à l'industrie agroalimentaire, vous paraît être une solution, une bonne démarche ?
Oui, c'est une bonne démarche, mais c'est vraiment pas la seule. Je pense qu'il faut, il faudrait que pour chaque type d'aliment, il y ait un profil nutritionnel type qui soit, un cahier des charges qui soit donné aux industriels. Et si bien que si l'industriel s'éloigne trop du cahier des charges, s'il met trop de sucre, trop de sel, ou s'il met trop d'additifs, ou bien s'il met des ingrédients qui à la fin font que le produit est sans intérêt, donc il faudrait qu'il y ait une interdiction de mise sur le marché. Donc il y a beaucoup trop de produits sans intérêt nutritionnel. Je ne sais pas pourquoi. Ça a des conséquences négatives extrêmement importantes au niveau de l'humanité. Donc, il y a une épidémie de diabète et d'obésité sans pareil. Et je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à mettre un peu d'ordre dans cette anarchie alimentaire.
France Culture, Science Publique, Michel Albert-Gonti.
Nous débattons aujourd'hui la question « Notre alimentation a-t-elle perdu ses qualités nutritives ?» avec nos invités. Serge Herberg, directeur d'une équipe de recherche à l'INSERM sur l'épidémiologie de la nutrition et directeur du programme national Nutrition Santé, et Christian Rémézy, nutritionniste, ex-directeur de recherche à l'INRA. Alors on voit que, effectivement, ce que nous avons dit jusque-là plaide pour une action des pouvoirs publics. On ne voit pas trop ce qu'il faut faire pour l'éviter. Enfin, les industriels ne semblent pas capables d'évoluer visiblement d'une façon naturelle sans cette contrainte. La question qui se pose peut-être à nos auditeurs aujourd'hui, c'est en attendant, que faire, Serge Herberg?
Alors, faut comprendre que on essaye par différentes voies. Dans un premier temps, en France, on a essayé de l'incitation sur une base de volontariat. Donc, on a signé, le ministère, au travers du PNS, a signé des chartes d'engagement auprès des industriels qui s'engageaient à améliorer la qualité du sol des aliments. Il y en a eu quelques-unes qui ont été signées, qui ont montré donc qu'il y a bien une marge de manœuvre. Aujourd'hui, on peut avoir des produits moins gras, moins sucrés, moins salés sur le marché. Les chartes d'engagement qui ont été faites l'ont démontré. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à faire venir l'ensemble des groupes agroalimentaires français. Alors, la réglementation que prône Christian Rémézy, quelque chose d'extrêmement complexe. On est dans un cadre où il est très difficile de fixer des seuils, ou dans un contexte européen, c'est très compliqué. Mais il y a des moyens indirects. Si, une fois de plus, on met en compétition les produits, il faut savoir, par exemple, si on regarde les pizzas au fromage, il y a 16 pizzas au fromage qui sont mises sur le marché en France. Quand on regarde la qualité nutritionnelle, ben par rapport au logo qui va du vert au rouge, il y en a qui sont jaunes, il y en a qui sont oranges, il y en a qui sont roses, il y en a qui sont rouges. Donc il y a des différences de qualité nutritionnelle. Si on affiche cela, l'industriel qui est rouge, qui produit sa pizza au fromage, alors que son concurrent est orange ou jaune, va améliorer le produit. Donc on peut espérer, grâce à ce type d'action, indirectement jouer sur l'amélioration de l'offre alimentaire. Aujourd'hui, eh bien, j'insiste, que faire? Ben oui, manger d'abord plus de fruits et légumes, manger des aliments céréaliers complets, en effet, demander à son boulanger du pain bis. On peut, au niveau individuel, faire un certain nombre de choses, faire de l'activité physique dans sa vie quotidienne. Mais il faut également faire pression sur les pouvoirs publics et sur les industriels pour que soient mises en place des réglementations. Alors, peut-être pas sur la composition nutritionnelle des aliments, ça c'est extrêmement compliqué, mais au moins sur un certain nombre de moyens qui permettront, qui forceront les industriels à améliorer leur position. Si on fait une taxe nutritionnelle en fonction de la qualité nutritionnelle, la taxe sera d'autant plus forte que le produit est gras, sucré et salé. On peut penser vraiment avec beaucoup de vraisemblance que les industriels qui ont les produits les plus gras, plus salés, les plus sucrés, vont réduire pour payer moins cher la taxe. Et les systèmes de subvention vis-à-vis des fruits et légumes ou des aliments de bonne qualité nutritionnelle pourraient bénéficier de ces taxes. Donc on peut, de façon indirecte, faire pression pour que l'industrie améliore ses produits. Certains le font déjà, montrent que c'est possible. Donc il faut faire plus.
On en est quand même à la fin du troisième plan nutritionnel santé. Donc ça fait 15 ans que ce programme existe. Et donc la difficulté ou les problèmes ne sont pas totalement résolus. Ce qui montre sans doute la difficulté à laquelle vous êtes confronté.
Oui, tout à fait. Alors, faut quand même dire que dans un premier temps, il fallait donner un cadre de référence, qu'il y a des recommandations officielles. Imaginez, il y a encore 15 ans, la cacophonie nutritionnelle avec tous les émetteurs, la publicité, les gourous. Le consommateur s'y retrouvait pas du tout. Aujourd'hui, je dis pas qu'il s'y retrouve beaucoup mieux, mais il a des repères de consommation, il y a des outils. On a distribué 25 millions de guides alimentaires. Il y a un site de l'INPES qui donne des recommandations, qui traduit ça même avec des fabriques à menu, des recettes, des listes de courses. Donc, il y a beaucoup d'outils qui sont développés. Il y a des mesures sur les cantines scolaires qui ont été mises en place. Donc, il y a eu des progrès. Il faut aller beaucoup plus loin. Et on sait aujourd'hui que ça ne peut pas être simplement de la communication qui est faite. Il faut, en effet, agir sur la qualité nutritionnelle et sur l'offre alimentaire.
Christian Remezy, ça se complique. Aujourd'hui, on va pas le faire parce que je pense que ça compliquerait trop. Mais si on rajoute la question des pesticides, qui là est quand même très liée à l'agriculture, les choses se compliquent. On peut lire parfois que le pain complet est plus chargé en résidus toxiques que le pain à partir d'une farine raffinée. Donc l'équation, elle passe aussi, là on parle beaucoup des industriels aujourd'hui, elle passe aussi par l'agriculture, j'imagine.
Oui, ça passe par l'agriculture, évidemment. Mais le fait, si la consommation de pain bio se développe, c'est aussi un encouragement à la culture bio. Et puis, en même temps, il y a des solutions. Par exemple, on peut très bien utiliser une farine blanche et compléter, donc augmenter la teneur en enveloppe en utilisant une farine complète bio. Avec un mélange de farine blanche et de farine complète, on arrive à un type 80, on arrive à une teneur en fibres intermédiaire. Donc, on peut résoudre cette solution, mais dès maintenant. Alors, ce que je voudrais dire en plus, c'est qu'il faudrait finalement avoir une vulgarisation plus claire, plus globale, plus simple. Donc, il faudrait par exemple que chacun soit bien communiqué sur le fait qu'il vaut mieux consommer des produits céréaliers moins raffinés et des légumes secs, c'est très important de le dire, et même faire des produits à base de, par exemple, des pâtes alimentaires qui contiennent à la fois des céréales, des légumes secs. Il faudrait aussi beaucoup plus consommer sur la nécessité de réduire la part des calories d'origine animale. Donc, on ne le fait pas. Actuellement, on est à 30% de calories d'origine animale. Il faudrait passer à 15% de calories d'origine animale, peut-être en 20 ans. Mais enfin, déjà, si les pouvoirs publics donnaient clairement l'objectif à atteindre, ça aiderait beaucoup les consommateurs. Donc, aussi expliquer que les fruits et légumes, c'est de saison qu'il faut les consommer. Donc, expliquer, vulgariser qu'il faut consommer des huiles vierges plutôt que des huiles raffinées, qu'il faut réduire la consommation de calories vides. Tout ceci, c'est des concepts qui sont relativement simples, mais qu'on n'a pas su, j'allais dire, porter au niveau du public. Voilà. Et ça résoudrait beaucoup de problèmes, à la fois sur le plan de la santé humaine, et puis même en amont, pour induire, pour favoriser une agroécologie, une agriculture plus durable.
Alors, justement, dans votre chronique, enfin dans votre plutôt tribune publiée par Le Monde, il y a quelques jours, le 28 avril, vous plaidez dans d'autres articles aussi pour une espèce de révolution agricole verte et aussi pour réduire la proportion de consommation animale dans l'alimentation. Là, après ce que vous nous dites, ça revient à réduire de 50% à peu près ce que les Français mangent aujourd'hui en moyenne comme apport animal. C'est bien ça, à peu près ?
Oui, c'est ça, oui. Mais le problème, c'est que comme on n'a jamais vulgarisé sur le sujet, l'homme de la rue ne sait pas s'il consomme 30%, 35%, 40% de calories d'origine animale ou bien s'il en est à 10%. Donc 10%, c'est plutôt les végétariens. Alors moi, ce que j'essaierai de promouvoir, c'est justement un terme qui me plaît beaucoup, de dire que on gagnerait à être éco-végétarien, c'est-à-dire à consommer modérément des produits animaux. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas végétarien, simplement consommer des produits laitiers ou des œufs, ça tient pas la route. Ce qui tient la route, c'est de modérer sa consommation de produits animaux. Et on a besoin de cette vulgarisation pour résoudre à la fois des problèmes de santé humaine et en même temps pour résoudre des problèmes écologiques, des problèmes de sécurité alimentaire. Donc une chose qui est aussi essentiel n'est pas communiqué au niveau du public. On est capable de communiquer sur le fait qu'il faut isoler les bâtiments, mais on n'est pas capable de communiquer sur le fait qu'il faut réduire la part des calories d'origine animale. D'ailleurs, c'est la seule façon de mettre un terme à l'excès des élevages industriels, ce qui n'est pas recevable sur le plan éthique ni sur le plan écologique. Voilà.
Serge Ekberg, un autre écueil, une autre difficulté, c'est d'un côté l'industrie agroalimentaire, de l'autre côté l'agriculture, et aussi là j'imagine des pressions pour conserver l'élevage en France et le commerce de la viande. Comment vous réagissez à ce que dit Christian Remezy en matière de réduction de cette part de consommation animale dans l'alimentation?
Alors c'est quand même les grands principes des messages qui sont aujourd'hui donnés au public, manger plus de type des aliments de type végétal, C'est une des constantes.
On dit pas vraiment de manger moins de viande. Enfin, c'est pas un slogan actuel très répandu.
On dit au moins 5 fruits et légumes par jour. C'est-à-dire, on promeut la consommation de produits végétaux. On dit 1 à 2 fois par jour l'ensemble des produits animaux, c'est-à-dire viande, poisson, œufs, en privilégiant le poisson et les œufs. Donc, le discours, d'une façon générale, est relativement passé. D'ailleurs, la consommation de viande a chuté, même si elle est encore pour certains individus élevés. Le problème, quand on regarde les consommations, c'est qu'on parle de moyenne. Or, en fait, il faut qu'on regarde les grands consommateurs.
Elle a beaucoup chuté, cette consommation de viande en France ?
Elle a chuté depuis maintenant de nombreuses décennies. Les producteurs s'en plaignent. Elle est aujourd'hui à un niveau relativement faible en moyenne, même encore trop élevé, mais beaucoup plus faible qu'autrefois. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a, par rapport à la planète, à l'environnement, et on comprend très très bien ces problématiques. Sur le plan de la santé, ce qui nous inquiète, ce sont par contre les consommateurs excessifs de viande qui prennent un certain nombre de risques par rapport à un certain nombre de pathologies. Donc, il y a tout de même une cohérence dans ce discours. Et c'est vrai que la consommation de fruits et légumes a augmenté, que la consommation, du moins chez les adultes, que la consommation de gras reste malheureusement très élevée, celle de sucre et de sel a légèrement diminué, mais reste encore très élevée, et qu'il faut lutter contre tous les lobbies qui, tant sur le plan de la production que de la transformation et de la distribution, malheureusement ne vont pas dans le sens de l'intérêt des consommateurs.
Cette approche éco-végétarienne, Christian Rémézy, que vous prônez, comment peut-elle se traduire dans les faits? Alors, c'est plus simple, effectivement, de parler de végétarien qui a fait une croix sur toute consommation animale. Là, cet équilibre que vous prônez, qui est peut-être plus facile à obtenir et donc concerner plus de gens, comment se traduit-il concrètement dans l'alimentation quotidienne?
C'est d'une grande simplicité. On peut consommer, par exemple, de la viande 1 fois par jour. Et en plus, il faut savoir que si on consomme de la viande, on consomme une portion modérée et bien accompagnée de produits végétaux. Donc, les règles pour confectionner les bonnes assiettes sont tout à fait claires. Il faut des crudités, il faut un plat ternaire qui comporte à la fois le produit animal, les féculents et les légumes. Donc, on n'a aucune difficulté. Justement, on revient aux aliments de base et un petit peu, on est beaucoup plus clair que de... Enfin, on aboutit à un profil nutritionnel plus intéressant que si on consomme des produits transformés, bourrés d'additifs et très déséquilibrés. Donc, un comportement éco-végétarien est tout à fait compréhensible. Plus, je veux dire, le fait qu'il y ait éco, ça fait référence, je veux dire, à tout ce qu'il faut faire pour respecter l'animal, pour respecter l'environnement, et puis pour se faire du bien soi-même. Donc je ne vois pas de difficulté, simplement, c'est le fait que, ça ne soit pas l'objet d'une politique, entre guillemets, officielle. Officiellement, le politique devrait dire, voilà, on vous encourage à devenir éco-végétarien, parce que c'est vraiment l'intérêt de la nation, l'intérêt de construire l'avenir que d'adopter ce type de comportement. C'est sortir des chapelles stupides et réductrices.
Serge Hagberg, en matière de politique, justement, quelles seraient les marges de manœuvre, par exemple pour le bio? Vous avez cité tout à l'heure le fait que le bio pouvait être plus cher et donc moins accessible par les populations qui sont les moins informées, qui sont les plus vulnérables à une malnutrition, à l'obésité et autres. Est-ce qu'il faut faire se développer le bio en France? Et si oui, comment?
Alors d'abord, ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'au début du PNNS, au début des années 2000, on n'intégrait absolument pas la dimension environnementale. Donc il y a aujourd'hui un grand progrès, c'est que dans les réflexions que nous avons en termes de futur de la politique d'une salle de santé publique, c'est d'intégrer ces dimensions environnementales, qui rejoint ce que disait Christian Rémézy. En ce qui concerne le bio, on connaît l'intérêt sur la planète. Alors sur le plan de la santé, il y a des études qui aujourd'hui visent à essayer d'aller plus loin pour avoir des démonstrations scientifiques de l'intérêt ou non de la consommation de bio. C'est la science qui va permettre sûrement de convaincre les pouvoirs publics de justifier, à côté de l'argument environnemental, un argument de santé. Et une étude comme l'étude NutriNet Santé, où on suit une cohorte de population, dont des consommateurs de bio, doit nous permettre, par rapport à l'apparition des maladies, par rapport à des marqueurs biologiques toxicologique ou nutritionnel, de pouvoir avoir un dossier fort qui permettra d'étayer ensuite les choix pour la politique nutritionnelle de santé publique. Donc, vous voyez, il y a une préoccupation, il y a déjà des certitudes environnementales sur le plan de la santé. On a encore besoin d'éléments qui permettront vraiment d'asseoir une politique nutritionnelle de santé publique en France, mais qui soit en plus vecteur pour l'Europe d'une réflexion.
Alors, dans ce que vous dites, en creux, il y a la découverte que finalement la relation entre alimentation et santé est relativement nouvelle, ou du moins peut-être a-t-elle été redécouverte récemment, puisqu'elle a probablement existé dans un passé plus ou moins lointain. Mais aujourd'hui, ça devient une préoccupation peut-être liée à l'explosion de certaines maladies, comme le diabète que citait tout à l'heure Christian Remézy, mais aussi évidemment le cancer, et peut-être les maladies neurodégénératives. Donc c'est quand même une vraie nouvelle approche.
Oui, mais c'est vrai que la nutrition, c'est une discipline extrêmement jeune. Curieusement, alors qu'Hippocrate disait déjà, il y a plus de 2000 ans, que notre alimentation soit notre première médecine, il a fallu, en fin de compte, attendre le début des années 80 pour que, dans notre monde occidental, où il n'y avait plus de grandes carences, où on pensait qu'il n'y avait plus de problèmes de nutrition, on redécouvre les effets délétères de consommation qui s'éloignent des recommandations. Donc c'est quelque chose de récent. C'est quelque chose pour lequel même le consommateur prend conscience que depuis peu de temps, il y a 20 ans, un consommateur faisait plus attention à sa marque de lessive qu'à l'origine des aliments. Mais les crises sanitaires, l'épidémie d'obésité, tout ceci a contribué à lui faire prendre conscience. Donc, nous sommes en train de vivre une époque où les choses changent parce que la demande sociétale est forte et parce qu'il y a maintenant des travaux scientifiques qui permettent de justifier, de pousser les pouvoirs publics à mettre en place des mesures et les industriels à les appliquer.
Christian Remézy, est-ce que le bio, pour vous, est une solution aujourd'hui, ou bien est-ce que c'est une forme de mirage? On voit que les grandes surfaces s'approprient plus petit à petit ce label, et on peut d'ailleurs se demander, comme Dany Journeau, notre réalisatrice, si le bio des grandes surfaces est du vrai bio, ou bien du bio, du faux bio. Christian Remézy, la place du bio, comment vous la voyez-vous?
Le bio serait vraiment une très bonne solution. Une solution pour bien nourrir la population.
Même en supermarché?
Et justement, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a un risque effectivement de dérive du bio vers du bio-industriel. Alors, si on adopte une démarche globale, la seule qu'il faut réellement, qui est valable, on pourrait dire que le développement du bio serait un moyen, j'allais dire, de maintenir un bon équilibre entre ville et campagne. Parce qu'en bio, il faut beaucoup plus de main-d'œuvre, on peut se débrouiller avec des fermes plus petites, avec des circuits plus courts, et nous avons besoin, absolument besoin, de préserver un équilibre entre ville et campagne. Donc il faut se nourrir, il faut à la fois préserver la planète et en même temps aussi, évidemment, j'allais dire, promouvoir un équilibre social entre ville et campagne. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'on veut faire avec des cités, d'une population qui serait totalement citadine et puis des campagnes désertes. C'est une absurdité qui ne correspond absolument pas, en tout cas, à la civilisation française.
Vous n'avez pas tout à fait répondu à la question sur le bio en supermarché?
Le bio en supermarché est souvent le résultat d'une dérive industrielle, c'est-à-dire c'est soit du bio trop lointain, soit du bio trop transformé, mais il n'y a pas que ça, il peut y avoir effectivement du bio entre guillemets normal en supermarché.
Merci beaucoup, malheureusement le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Serge Arkberg et Christian Remézy d'avoir participé à cette émission. Sur notre site, vous trouverez des liens avec, entre autres, le programme national Nutrition Santé et la tribune de Christian Remézy, je vais y arriver, dans Le Monde. Toujours sur le site de Sciences Publiques, vous pourrez réécouter cette émission pendant 1000 jours, la podcaster pendant un an, bien entendu nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages. C'est possible tout en bas de la page de Sciences Publiques. La semaine prochaine, vendredi 13 mai, Sciences Publiques se penchera sur les controverses scientifiques en s'interrogeant sur leur utilité, qu'il s'agisse des OGM, et on retrouve un peu le sujet d'aujourd'hui, même si le terme OGM, nous avons réussi à ne pas le citer pendant toute l'émission. Réchauffement climatique, nucléaire, ondes électromagnétiques, les débats scientifiques ont-ils un impact sur le développement des applications de la science dans la société? Nous en débattrons avec nos invités autour de Marie-Françoise Chevalier-Le Guyader, directrice de l'IHEST, qui a consacré une université d'été à ce thème. Sciences Publiques, Dany Journeau, Jacques Hubert, avec Patrice Lecomte à France Bleu Toulouse, Marie Dalquier, Michel Albergantis.